Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Pour Par les temps qui courent, il s'agit d'un entretien tous les soirs avec les artistes dans l'actualité culturelle et ce soir avec la réalisatrice Mila Turajlić.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper,
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te dire.
Marie de Chaux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Voilà un film qui mute depuis l'intérieur. Pendant 10 ans, Mila Turajlić, vous filmez l'appartement familial au cœur de Belgrade, héritage de votre grand-père, divisé en 1948 par le régime communiste qui le juge, je cite, « trop confortable ». Dans cet appartement, la vie s'organise donc de part et d'autre de portes condamnées. La vie des autres se devine, s'entend parfois, et cette division de l'espace modélise les divisions politiques et sociales du pays. Et dans cet appartement vit votre mère, professeure de mathématiques et femme politique, dont vous suivez les engagements depuis l'enfance. Vous êtes née en 1979, vous avez 1 an quand Tito meurt, 11 ans quand Milosevic arrive au pouvoir, 12 quand la guerre commence en ex-Yougoslavie, 16 quand elle s'achève, 20 quand l'OTAN bombarde, 21 à la chute de Milosevic, 24 lors de l'assassinat de Zoran Djindjic. Tout le monde n'a pas vu son pays disparaître à 11 ans et il est possible que cela motive votre entêtement à en transmettre l'histoire. Votre film documentaire est aussi un bouleversant opus sur la responsabilité politique, la clairvoyance révolutionnaire, l'amour maternel et l'héritage. L'envers d'une histoire est sorti hier en salle. Bonsoir Mila Turajlić.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Celui qui regarde du dehors, à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fière d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûre que cette légende soit vraie ? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidée à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ? Charles Baudelaire, petit poème en prose, 1869.
Il y avait un poème de Baudelaire qui raconte justement comment il voit à travers des fenêtres éclairées, ça s'appelle La Fenêtre, c'est un poème en prose, et il voit quelqu'un, une vieille femme éclairée par une lanterne, et puis il commence évidemment à s'imaginer, à imaginer un récit, à conter sa vie. Et il dit « et je ris et je pleure avec elle, et je suis, et je me couche ». Et j'ai vécu dans d'autres vies que la mienne. Alors là, je ne sais pas si c'est du Emmanuel Carrère ou du Baudelaire, je ne me souviens plus parce que je ne cite pas exactement, mais c'est un petit peu ça. Cette tension entre quelque chose qui relève de la permanence des pierres et l'impermanence des vies qui y passent, et d'autant plus impermanentes qu'elles sont parfois soufflées par la tragédie. Et il se trouve que j'y étais confrontée dans mon histoire familiale. C'est vrai que ce contraste-là, c'est quelque chose que j'ai ressenti, sans le formuler comme ça naturellement, mais probablement très tôt, et que Paris s'est toujours offert à moi, à la fois en effet comme un refuge, mais un refuge dont on peut être brusquement enlevé.
C'est la voix de la réalisatrice Ruth Silbermann qu'on recevait ici dans cette émission, Camilla Touraillich et qui a réalisé un film sur un immeuble qui a été le lieu d'une rafle d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, d'enfants juifs. Je disais tout à l'heure que votre film est un film qui mute de l'intérieur parce qu'on sent que votre projet évolue au fur et à mesure que le film est en train de se faire. Est-ce qu'au départ, il s'agissait de filmer ces pierres, filmer cet immeuble ?
Justement, le projet de départ était beaucoup plus concentré, je pense, que le film final, parce que j'avais l'impression que je pourrais vraiment faire un film autour d'une porte. Donc vraiment de prendre une porte condamnée, une serrure, une clé, et à travers cette histoire de la division d'un espace intime, effectivement, raconter quelque chose sur plus large sur mon pays, mais surtout sur la vécue. Et après un certain moment, évidemment, vous vous rendez compte qu'un espace, malgré toute l'énergie qui reste à l'intérieur, et c'est compliqué d'en faire peut-être un film de long métrage. Et c'est là où j'ai commencé à travailler les autres thèmes, en fait, qui sont nés à l'intérieur de cet espace. Mais au départ, c'était vraiment l'idée d'utiliser un lieu comme le cadre d'un récit. Voilà.
C'est un lieu auquel vous êtes lié par plein de bouts, plein d'histoires. Je le disais tout à l'heure, déjà par un ancêtre, et puis ensuite, peut-être de manière plus proche, par votre mère, et par aussi le temps que vous y passez, sur des strates d'attachement qui ont tous participé à la manière dont vous avez fait ce film-là.
Tout à fait. Donc, déjà, il y a le fait que le bâtiment dans lequel se situe notre appartement est un bâtiment construit par mon arrière-grand-père. Donc, il y a déjà un lien qui s'ancre dans le fondement de ce bâtiment même. Et après, il y a une fête assez bizarre, ce qui est que toutes les familles qui habitent dans ce bâtiment, il y en a 14, 15, ils sont là depuis presque le début de cette histoire. Ça veut dire 60, 70 ans. Il y a des liens générationnels entre les habitants de ce bâtiment. J'essayais aussi de suggérer ça, qu'il y a vraiment une vie, un voisinage permanente qui témoigne à l'histoire. C'est pas que l'histoire d'un appartement, une famille. Mais après, quand on monte sur l'étage où se trouve mon appartement familial, on est encore dans une histoire parce que comme mon arrière-grand-père a construit le bâtiment, il a gardé tout un étage pour sa famille. Du coup, c'est un appartement vraiment grand, presque 300 mètres carrés. Et c'est vraiment à cause de ça et le fait que l'appartement a eu deux entrées. Donc, un pour la famille, l'autre pour je sais même pas comment l'expliquer, la femme de ménage et les gens qui travaillait dans l'espace. C'est vraiment grâce à ça ou à cause de ça, si vous voulez, qu'à un moment en 48, quand l'appartement était divisé, ils ont pu installer, ils ont installé deux familles et ils ont gardé une autre pièce pour le ministère des Affaires étrangères, pour les gens qui venaient à Belgrade pour les affaires du ministère, pour qu'ils aient un espace pour dormir. Donc c'était quatre familles à l'intérieur d'un appartement. Mais ce qui est bizarre, et comme moi je suis née, déjà le communisme, c'était un peu vers la fin de cette histoire, c'était une idéologie qui s'est d'une manière assez épuisée à l'époque, mais les choses étaient les mêmes, rien n'avait changé. Et du coup, en 2000-2010, quand j'avais des amis qui sont venus nous visiter, des étrangers, et ils ont vu cette porte verrouillée, ils me posaient des questions, mais qu'est-ce que c'est? Et là, je disais, mais pour moi, c'était une évidence, j'ai grandi avec ça. Ah bah oui, c'est nos voisins invisibles, c'est des gens qui s'étaient installés là-bas. C'est en expliquant à quelqu'un cette situation en 2010 que je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelque chose de très bizarre dans le fait que notre espace familial a survécu une idéologie qui l'a cadré, en fait.
Et petit à petit, on sent que c'est la femme que vous êtes devenue qui revient sur des gestes, sur des objets, sur ces portes fermées qui étaient normales parce qu'intégrées aussi à une situation sociale, une situation politique, et que vous avez pris du recul pour mille raisons, pour des questions d'âge, de voyage, de déplacement, et que vous êtes en mesure de regarder ça différemment. Est-ce que c'est le chemin que vous avez fait ?
Tout à fait. Donc, j'avais la possibilité, vers la fin de la guerre, dans les années 90, j'ai eu une bourse pour partir à étudier à l'étranger. Et c'est sûr que ça a changé mon regard, parce qu'en rentrant, évidemment, vous voyez votre pays différemment, parce que vous avez eu cette expérience à l'étranger. Et surtout, je pense que ça m'a aidé à comprendre à quel point le regard que l'Occident portait sur la Serbie et sur la rôle de la Serbie dans les années 90, correspondait pas du tout à la manière dont laquelle moi et ma famille on a vécu. Donc je pense que c'est le fait que j'étais à l'étranger. Vous savez, parfois c'est très bizarre, surtout pendant les années de la guerre et le bombardement, il y a toujours un débat qui se passe entre les Serbes, qui est-ce que c'est plus difficile d'être serbe et vivre la guerre à l'étranger ou être serbe et vivre la guerre dans le pays. Et je pense, et je vois ça souvent avec les gens qui viennent de pays, de situations compliquées, qui disent, mais c'est plus difficile d'être à l'étranger.
Beaucoup de Libanais ont dit ça, par exemple.
Parce que, un, t'es pas là, donc tu reçois toutes les nouvelles avec du retard, et il y a toujours cette souci pour ta famille, tes amis, et une frustration de ne pas être là. Mais en même temps, c'est comme si t'es à l'ambassadeur ou à la barricade de débat de ton pays à l'étranger, et t'es confronté avec toutes les idées reçus, tous les préjugés, toute la manière réductrice de médias d'en parler, et tu te sens dans une bataille permanente d'expliquer, de débattre en fait tout le temps. Et du coup, ils ont dit que, surtout les Serbes, ils ont dit ça, mais j'imagine que c'est vraiment vrai pour des autres pays qui sont dans une guerre civile, que c'était plus difficile et dur d'être serbe, disons en France à cette époque-là, que de l'être serbe qui était là pendant l'embargo et sous les bombes, parce qu'au moins, tu n'étais pas tout le temps soumis à ce jugement que les gens portaient sur la situation dans ton pays.
Et c'est vraiment un film, l'envers d'une histoire, qui joue précisément sur cette dialectique, ce dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, être dans la situation, ne pas être dans la situation, vivre l'histoire au présent ou avoir du recul sur cette histoire. Et vous en trouvez des traductions formelles à l'image qui sont, à mon sens, extrêmement fines et puissantes. Comment est-ce que vous avez justement réussi à traduire ces procédés, qui sont des procédés presque, enfin des concepts, à traduire ces concepts dans des images, et est-ce que c'est un procédé qui a été conscient?
Oui, il était très conscient, parce que je cherchais tout le temps à déplacer le propos d'une échelle, disons, histoire, à une échelle qui est beaucoup plus intime et qui est celui de mémoire. Donc il y avait un vrai travail, je fais ça avec les archives, mais aussi dans cette idée qu'on va raconter l'histoire vue de l'intérieur, donc vraiment d'un champ, à une échelle intime, qu'on peut peut-être bouger ce débat, disons, plutôt intellectuel et l'intégrer plutôt dans une réflexion de ce qui était vraiment vécu par les gens. Et donc, évidemment, il y avait tout un travail à faire. Et pour moi, le point de départ dans mon processus de travail était vraiment cet espace. Donc, je me suis dit, de l'appartement, je vais faire un personnage. Comme ça, il va devenir un microcosme de l'histoire, du pays. Puis, évidemment, il y avait cette idée de concentrer l'énergie, donc d'en faire un huis clos. De l'emblée, je savais que je voulais jamais dans le film quitter l'appartement. Donc, il faut qu'on reste à l'intérieur de cet espace pour qu'il commence vraiment à nous raconter un pays. Et j'avais cette idée qu'on utilise les fenêtres pour faire à la fois un portrait de la Serbie d'aujourd'hui, parce que le bâtiment se situe sur un carrefour stratégique politiquement, donc il y a cette possibilité de raconter la Serbie d'aujourd'hui, mais en même temps de vraiment faire toujours cet aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur, donc de vraiment faire exister la vie intérieure grâce à ces passages de l'extérieur, et comment en fait ils se parlent, comment il y a une communication entre les deux. Et le troisième élément pour moi qui était très important dans toute cette histoire, c'est les objets. Donc j'ai grandi dans un appartement où on mange avec le même couvert avec lequel ma grand-mère a mangé, ou je sais même pas, mais vraiment des objets que j'utilise au quotidien, c'est des objets qui appartenaient parfois à ma grand-mère, parfois même à mon arrière-grand-père. Et je suis très frappée parfois quand je vais chez mes amis, parce que là, en fait, à mon âge, je pense que tout le monde a presque meublé nos apparts chez Ikea. Et en fait, je me rends compte à quel point les choses qu'on touche au quotidien sont des choses qui existent depuis peu, 2, 3, 4 ans. Et parfois, je me demande, même quand je suis assise à Paris, parce qu'évidemment, là, je suis pas entourée par des objets si vieux, que nous, on vit les vies aujourd'hui, où en fait, ça nous arrive de ne pas toucher des choses autour de nous qui ont une histoire. Parce que on est toujours en train d'acheter de nouvelles choses, parce que rien n'est créé pour durer, déjà. Donc il y a cette obsolescence qui rend les objets qu'on touche, en fait, la tactilité de notre quotidien très récent. Alors que je suis grandie dans un appartement, en fait, tout ce qu'on touche a une histoire. Et du coup, j'étais très, très, très marquée. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter un musée à Istanbul qui s'appelle le Musée de l'Innocence, qui était fait par Orhan Pamuk. Mais c'est assez extraordinaire parce que c'est un musée qu'il a créé en même temps qu'écrire un roman qui s'appelle le Musée d'Innocence. Et en fait, il a fait un parallèle entre le roman et le musée, parce que chaque chapitre du roman est aussi raconté dans le musée à travers une vitrine qu'il a remplie avec les objets. Et du coup, il arrive à raconter la même chose qu'il raconte à travers les mots dans un roman, il raconte à travers les objets. Et j'avoue qu'en visitant ce musée, je me suis dit à quel point une serviette, un ticket métro, en fait, les petits trucs qu'il a utilisés pour raconter c'est la vie de ces personnages, ça m'a vraiment frappé à quel niveau on peut, en fait, combien de récits il y a dans les objets. Et du coup, j'ai vraiment commencé à travailler ça dans le film, dans cette idée que ma mère ouvre un tiroir, il y a quelque chose qui tombe, qui nous raconte un épisode de l'histoire. Elle ouvre un placard, encore une fois, elle trouve quelque chose. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire de cet appartement une sorte de musée où... voilà où se cache l'histoire. Et c'est comme ça qu'on va chapitrer un peu ses arrières, ses flashbacks dans le passé, parce qu'elle va toucher quelque chose dans l'appart et c'est de là où l'histoire va commencer.
Et ça devient presque magique parce qu'en effet, alors on imagine que bien sûr il y a du montage, que tout ça c'est aussi dû à votre savoir-faire du moment et à votre relation avec votre mère, mais ça devient magique parce que d'un seul coup il y a un badge avec un slogan et d'un seul coup, bim, tout de suite on est dans une manif ou un sifflet ou un tract ou une télévision et on sent que là pour le coup c'est presque quelque chose d'enfantin, c'est vraiment un enfant qui se promène dans des objets qui, si l'adulte n'est pas là pour les activer de leur récit, n'ont rien à dire. Mais si l'adulte est là, d'un seul coup, ils ouvrent une profondeur de champ qui est infinie. Ça veut dire que pendant tout ce temps où vous filmez, Mila Turajlić, il n'y a pas de repos. En fait, tout peut arriver tout le temps.
Pas du tout.
Il y a une histoire qui peut tout le temps naître, en fait.
C'est vrai, et je vous avoue que 5 ans d'existence dans cette mode-là sont assez compliqués parce qu'il y a presque une schizophrénie qui naît, je veux dire, à la fois je suis chez moi, donc tranquille, je me repose, je vis ma vie quotidienne, mais à la fois je suis tout le temps à l'écoute parce que si le téléphone sonne ou il y a quelqu'un qui est à la porte ou il y a quelque chose qui se passe à la télé, est-ce que ça peut déclencher un moment où, en fait, est-ce que ça va ouvrir la porte à une situation à travers laquelle ma mère peut raconter quelque chose qui serait utile pour le film? Donc j'étais tout le temps dans une mode de en fait, j'étais tout le temps prête, la caméra était toujours là, la batterie était toujours chargée, donc j'étais toujours en mode chasse. Et c'est très bizarre d'amener cette... parce que ça, c'est un réflexe qu'on a quand on part en tournage. Mais d'être dans cette réflexe chez soi, c'est assez bizarre. Et j'avoue que ça m'arrive même aujourd'hui, donc ça fait un an maintenant que le film est fini, qu'il y a un bruit qui se passe dans la rue, je saute, je prends ma caméra et après j'ai un pensée, mais non, mais t'as fini, c'est fini, tu t'es plus obligé de faire ça parce que je reste quand même dans cette réflexe. Et même ma famille, ils sont beaucoup moqués de moi l'année dernière, donc le Noël, on le fête toujours chez nous et on était assise autour de la table et il y a mon cousin qui dit, mais ah non, moi je me sens pas capable de manger si son caméra n'est pas allumée. Donc eux aussi, ils sont complètement habitués au fait que la caméra est toujours là, elle est toujours présente.
Ce qui ressemble, Mila Turajlić, à ce que vous décrivez de ce que c'est qu'un engagement. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui parle aussi de comment on consacre sa vie à des choses que l'on choisit, et comment on y consacre beaucoup de temps, et comment, par exemple, on se retrouve à être sur une scène devant plein de gens à faire des discours dans le froid plutôt que chez soi, au chaud, avec ses enfants en train de manger. Ce que c'est qu'engager sa vie dans quelque chose. Et vous êtes beaucoup titillée dans ce film, vous-même en tant que personne, aujourd'hui moi en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant qu'individu, il est où mon engagement ? Votre film, il est d'une certaine manière la réponse à ça. D'être sur le qui-vive pendant 5 ans sans repos pour filmer des choses qui pourraient servir à votre film, est-ce que c'est pas là le plus grand engagement qui pourrait être le vôtre?
J'avoue que je le voyais pas du tout comme ça à l'époque. Et c'est peut-être un regard, une connaissance que j'ai pris de mon propre travail ou de mes propres motivations, mais après fait. Parce que pendant le travail sur ce film, j'avais juste un besoin que je comprenais pas forcément bien, mais de faire parler ma mère, parce que déjà, quand vous parlez des adultes qui activent les histoires, c'est quelqu'un qui est en fait un formidable storyteller. Je ne sais même pas comment on dit ça en
racontant des histoires.
Voilà, donc elle est formidable pour raconter les histoires et toute la mémoire de notre famille existe, vit encore grâce à elle. Donc si j'ai une idée de mon arrière-grand-père qui est assez vivante, c'est grâce au fait qu'elle l'a raconté comme ça. Donc pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui est un passeur d'histoires et de souvenirs et de témoignages qui le rend assez unique comme personnage. Beaucoup avant de cette idée que c'est une femme engagée qui a aussi un propos politique, pour moi, c'était juste quelqu'un qui a réussi à activer chez moi un imaginaire du passé qui n'est pas du tout morte. Donc, peut-être aussi grâce à cette tactilité des choses qui m'entouraient, mais je me suis toujours sentie très proche du passé. C'est quelque chose que j'ai touché grâce au télégramme qui reste de mon arrière-grand-père, grâce aux choses qui restent autour de moi. Pour moi, le passé n'était jamais une chose ni lointain, ni morte. Et j'ai grandi vraiment dans un appartement rempli de fantômes. Et ça, c'est grâce à ces histoires à elle. Et donc, ici, j'avais une idée de m'engager, c'était de préserver ça, de le documenter, de le filmer, et parce que je le trouvais très unique. Ce que j'avais pas du tout compris était que pendant cet entretien, c'est pas vraiment des entretiens, c'est vraiment une conversation. Parce qu'à un moment là, la dynamique a changé, c'était plus moi qui posais des questions, c'était vraiment
elle qui parlait
et surtout elle qui essayait de comprendre pourquoi ça me travaillait autant de reposer tout le temps les mêmes questions. C'est là où en fait notre dialogue a dérivé dans un vrai questionnement de l'engagement, parce que j'ai compris au fur et à mesure que la question qui me perplexait le plus, en fait qui me troublait le plus, c'est d'où venait sa capacité, donc sa décision de prendre la parole au moment où la guerre a déclenché, et deux, d'où venait la capacité de le faire et de rester engagé pendant une décennie et de sortir le soir pour participer dans les manifs et d'écrire des discours et de le donner sans peur, parce qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'elle portait en elle.
De si fort.
Et donc, c'est peut-être son engagement qui a provoqué en moi une réponse qui était face à ça.
Qu'est-ce que je fais?
Concentration. Empty your mind. Let the rest of the world go by. Hold your breath. Hold your breath.
France Culture.
Close your eyes.
Par le temps qui court, Marie Richeux avec Mila Turajlić.
Rocks and stones. Broken bones. Everything eventually comes crawling home. In the night. Please forgive me if I fall short of your mark, but there are things still buried in my heart, boys.
Naturellement, l'archive, c'est aussi l'héritage, ou quand on utilise une langue cinématographique ou verbale, naturellement, c'est aussi une question d'archive, naturellement, comme des dictionnaires ou des choses qu'on apprend à l'école. Mais pour moi, c'est essentiel que, en beaucoup de cas, il faut pas produire des images, mais relire des images qui existent déjà. Trouver quelque chose qu'on n'a pas déjà découvert dans les images préexistantes. C'est un peu avec les mots. Peut-être on ne doit pas créer des autres, de nouveaux mots. On peut utiliser les mots existants d'une manière précise, tout cela. On a pensé au début de l'histoire du cinéma que, aux années 20 par exemple, que le montage, ça c'est l'essence du cinéma. Et après, avec toutes ces structures de la narration, on a presque oublié le montage. Et je crois qu'on peut retourner maintenant à cette idée parce que aujourd'hui, on peut trouver des combinaisons entre des images qui sont pas banales comme aux années 20, les choses de contraste, les pauvres, les riches, le sombre et la lumière, ou tous ces contrastes. Aujourd'hui, c'est créer des contrastes qui sont pas banals avec une subtilité. Je l'ai essayé dans quelques de ces œuvres ici.
C'est la voix de Haroun Farouki en 2009 au micro de Jean Dev sur France Culture, à la fois pour dire que l'utilisation des archives pour lui correspond à une dynamique de relecture des images pour les redécouvrir, et ensuite pour dire qu'on a à notre disposition une pratique de montage contemporaine qui emmène vers toujours plus de subtilité. Mila Touraïlitch, ça parle absolument au film que vous produisez là, L'envers d'une histoire, mais aussi au premier film que vous avez produit sur l'histoire du cinéma en Yougoslavie. Alors, peut-être dire quelle a été l'énergie déployée pour réunir toutes les images d'archives qu'on voit dans L'envers d'une histoire.
Oui, donc déjà, il y avait un travail de disons, juste de documentation. Parce que, vite fait, je me suis rendu compte que les images de la résistance contre Milosevic sont en train de disparaître. Parce que cette décennie de manifestations, de luttes, évidemment, c'était pas filmé par la télévision officielle à l'époque, parce que ça faisait pas partie de... Enfin là, c'était la contestation de ce régime, qui avait vraiment aussi contrôlé la propagande médiatique à l'époque. Et donc du coup, c'était filmé par des individus, des étudiants à l'école de cinéma, les petites chaînes télé privées à l'époque, qui étaient en train de naître dans les époques des années 90. Et le problème est que depuis, ils étaient soit fermés, soit achetés par des oligarches de la région qui n'ont aucun intérêt de vous donner accès à ces images. Et du coup, j'étais obligée de commencer à appeler des gens qui étaient actifs à l'époque, que je croyais avaient peut-être un accès à une caméra ou je savais qu'ils filmaient à l'époque. Et je leur ai demandé s'ils avaient gardé ces choses. Et la plupart du temps, ça se trouve que c'était des cassettes VHS qu'ils avaient déposées dans leur cave il y a 10 ans, qu'ils étaient en train de pourrir parce que voilà, c'était pas des conditions pour garder des cassettes. Et du coup, j'ai commencé à faire un travail qui dépassait largement le cadre du film. Parce que je me suis dit, bon, moi, là, je suis dans cette logique de travail maintenant. Je vais ramasser tout ce qui existe. Je vais numériser ça. Je leur offre une copie numérisée. Et en revanche, eux, ils me donnaient le droit d'utiliser dans le film. Et du coup, j'ai fini avec plus que 200 heures des archives qui racontent plus qu'une décennie de notre histoire qui n'est pas connue. Et du coup, je suis aussi maintenant dans une réflexion de comment faire ça accessible aux jeunes chercheurs qui sont en train de faire leur thèse sur cette époque, tout ça, parce que en fait, eux, ils n'ont pas où accéder à ces archives. Encore pire que ça, était que pas mal des choses que j'ai trouvées n'étaient pas en Serbie. Parce que voilà, nous on l'a pas gardé, ça se trouve que la télévision autrichienne, qui a toujours eu un intérêt de suivre ce qui se passe dans les Balkans, a eu l'intelligence de garder les rushs de ce que leur équipe télévision a filmé là-bas. Du coup, il y a des discours de ma mère que j'ai trouvé en Autriche qui n'existent pas en Serbie. Juste pour montrer l'absurde de manque d'une conscience d'archiver toute une époque politique chez nous.
Ou des décisions politiques à ne pas les archiver aussi. C'est-à-dire, c'est ça aussi que montre l'envers d'une histoire. Votre film montre très bien qu'il n'y a pas une histoire, qu'il y a plein de points de vue pour la regarder et que d'un seul coup, mettre une VHS dans un magnétoscope, c'est gagner un angle de vue qu'on n'avait pas si on a juste été enfant à 10 ans et qu'on ne vivait pas dans votre famille à vous, par exemple, Mila Turajlić. Alors, c'est intéressant aussi ce que dit Haroun Farouki, c'est que les archives, c'est un héritage. Et de quoi on hérite lorsqu'on est en mesure de voir ces images-là? Est-ce qu'on hérite d'une force de contestation qu'on ignorait? Est-ce qu'on hérite d'une conscience, simplement? Est-ce que vous diriez que c'est cette idée-là que vous avez retrouvée dans les archives, une idée d'héritage?
Oui, et c'est sûr qu'il y a un héritage, mais en fait, encore plus que ça, on hérite un récit. Parce que ce qui a vraiment marqué mon enfance et ma vie, c'est que vu que nous, on était presque dans chaque époque politique un pays divisé, pro-monarchiste ou contre, pro-communiste ou contre, yougoslave ou nationaliste. Donc, il y avait toujours des fortes divisions dans la société. La naissance de chaque nouvelle période politique, ça veut dire que quand un de ces deux côtés gagnait le pouvoir, leur stratégie de se mettre en place et d'instaurer leur pouvoir était d'effacer le passé. Et du coup, quand les communistes ont venu au pouvoir, ils ont effacé l'existence d'un royaume yougoslave qui l'a précédé. Quand les nationalistes ont venu au pouvoir, ils ont effacé tout ce qui était l'héritage communiste. Nous, bizarrement, quand on a une révolution, disons, démocratique en 2000, au lieu d'ouvrir les archives en disant, maintenant, allez, on va discuter de la rôle que nous, on a joué dans les derniers 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, notre nouveau président a dit, écoutez, on est une démocratie très fragile, on va pas ouvrir ni les archives de l'État, ni les fosses communes. Donc, on va rien ouvrir parce qu'on est trop, on est dans une fragilité, démocratie naissante, on va parler de rien. Le résultat est que 15 ans après, les nationalistes ont repris le pouvoir. À mon avis, aussi à cause du fait qu'on n'a pas raconté à la jeunesse ce qui s'est passé. Et du coup, tout ça pour dire que quand vous grandissez dans un pays qui est dans un effacement permanent de son passé, en fait, l'héritage qui vous manque, c'est un récit. Et si vous n'avez pas un récit, vous n'avez pas une identité. Et du coup, ça va beaucoup plus loin que voir le passé, c'est j'ai besoin que quelqu'un me le raconte. Moi, j'ai eu cette chance de grandir dans une maison où il y avait une femme très capable de raconter le passé. Mais c'est très 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 rare en fait comme don.
Et je dirais même que l'occasion du film vous permet presque de rencontrer autrement cette femme qui raconte le passé et de lui proposer de le raconter autrement et donc peut-être de l'entendre autrement.
Quand est-ce que tu t'es dit qu'on touchait le fond? Plein de fois et à chaque fois on s'enfonçait encore plus. Quel a été le pire moment? Quand l'hyperinflation a éclaté, je me rappelle être rentré dans un supermarché qui était vide, complètement vide. Je pensais que c'était pour un nettoyage complet. Et puis j'ai réalisé qu'il ne restait plus de nourriture. Je faisais le tour, je calculais dans ma tête. Et puis j'ai réalisé que je n'avais pas assez d'argent pour la nourriture d'une semaine. Là, j'ai commencé à pleurer. C'était le moment le plus dur parce qu'on se sent si impuissant et les larmes ne servent à rien. Je n'arrivais pas à savoir si je pleurais de tristesse ou de rage. J'ai acheté ce que j'ai pu et je me suis traîné à la maison. J'ai demandé à ton père quoi faire. Il m'a dit, tu leur donnes à manger, nous on fera sans. Je ne sais pas, c'était juste atroce. Tu avais quel âge? C'était en 1993. J'avais 47 ans, vous aviez 13 et 14 ans.
L'envers d'une histoire, Mila Turajlić, on entend ici Romain de Becdelièvre qui traduit en français la voix de votre mère, c'est aussi adulte, être en mesure d'entendre ce qu'enfant, évidemment, ne nous a pas dit. parfois pour nous protéger. En l'occurrence, quand votre mère raconte cette scène, évidemment que c'est quelque chose dont vous n'aviez probablement pas conscience. Et d'un seul coup, l'envers d'une histoire, c'est aussi vous-même être une autre oreille pour l'entendre.
Tout à fait, parce que évidemment, moi j'ai vécu tous ces événements enfant, et le rôle des parents est aussi de vous protéger de ce genre de circonstances. Et du coup, je pense que ce film est aussi né au moment où moi j'ai commencé à regarder ma mère, pas dans cette relation mère-fille, mais à travers d'une autre dynamique qui est maintenant adulte face à une adulte. Et c'est là où je me suis rendu compte, un, à quel point l'époque qu'on a traversée ensemble n'était pas normale, parce qu'en tant qu'enfant, vous ne vous rendez pas vraiment compte.
Un enfant, il vit dans le monde dans lequel il vit.
Tout à fait. Donc là, avec un regard en arrière, j'ai besoin, un, de comprendre de son point de vue ce qu'elle a vécu, comment c'était pour elle. Mais deux, c'est là où je commence à comprendre que moi aussi, maintenant, en tant qu'adulte, je suis face à ce même dilemme auquel elle était face. Elle a fait face quand elle avait 30-35 ans, c'est vu la situation politique de mon pays, qu'est-ce que je fais? Et sa réponse à elle était, un, je reste, parce que c'est mes racines, ma maison et ma bataille, effectivement. Et deux, je m'engage, parce que rester et ne rien faire, c'est vraiment faire partie du problème, pas de la solution. Alors que moi, face à, disons, aux mêmes enjeux politiques, ma réponse, c'est plutôt vers partir ou s'enfermer dans mon art, dans ma création, dans mes amis, dans ma vie privée. Et du coup, sans cette capacité d'assumer, de s'engager. Et donc voilà, c'est vrai que tous ces questionnements commencent au moment où je commence à regarder le parcours de ma mère en tant qu'adulte.
Et à questionner, en effet, vous le disiez tout à l'heure, la force de cet engagement, quel est le moteur, quelle est l'essence de cet engagement, puisque vous le disiez, face à une situation politique idem, les réactions sont très différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer comment tout ça se construit. Et je trouve une des choses les plus émouvantes, c'est de prendre conscience qu'elle vous répond au départ, en fait, moi, j'ai tout vécu en tant que prof.
Ouais, et ça,
c'est très beau, parce que je trouve que c'est un positionnement qui dit presque la justesse dans laquelle elle s'est mise aussi face à la jeunesse, face au futur, face au mouvement. J'étais prof.
Oui, c'est ça qui me rend parfois même, qui m'énerve même parfois, parce que pour elle, la réponse à une question qui me travaille, qui me perturbe, que j'arrive pas à formuler ni une propre position, ni une propre réponse, pour elle, c'est une évidence. Et ça se résume d'une manière hyper simple. Et ça, en fait, c'est encore plus frustrant d'être face à ça. Parce que quand je lui dis, mais pourquoi, elle dit, enfin, bah, ils étaient en train de mobiliser mes étudiants, il fallait que je dise quelque chose. Pour elle, c'est si simple. En fait. Et c'est là où vous vous rendez compte que malgré tous les arguments et réflexions intellectuelles autour de l'engagement, voilà, la place de l'intellectuel dans la société, tout ça, pour elle, en fait, ça passe pas du tout par là. C'est juste des choses évidentes. Je suis un adulte dans une société, du coup, j'ai une responsabilité pour la jeunesse. Ce qui rend pour moi les choses encore plus difficiles à digérer.
Et donc, dit-elle, ils sont dehors, ils ont 20 ans, ils ont 21 ans, ils se mobilisent, c'est le soir et ils ont besoin de quelqu'un qui éventuellement porte une parole, je suis celle-là.
Ouais.
Et vous, vous regardez les images d'archives avec elle et vous lui dites, mais maman, est-ce que tu penses que c'est normal d'être devant une foule comme ça? Et d'une certaine manière, elle considère que oui, avec de l'humour, elle est bien consciente que... Parce que dans l'équipe, on se disait, c'est fou, à plusieurs reprises, on pense à des figures telles que Hannah Arendt. Alors, bien sûr, votre mère n'a pas produit probablement l'œuvre théorique qu'a produit Hannah Arendt, mais c'est de cette trempe-là, c'est de cette justesse politique-là. Et on a une femme qui très simplement dit, oui, voilà, j'ai suivi les jeunes gens à qui j'enseignais les maths et l'ingénierie.
C'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est là où elle pose un défi. C'est intéressant parce que vers la fin du film, il y a un vrai moment où elle tourne la table, disons, parce que c'est... Jusqu'à là, c'est moi qui l'harcèle presque avec mes questions, avec mon besoin de comprendre d'où ça vient, pourquoi, et surtout, est-ce qu'elle regrette, vu qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, est-ce qu'elle pense que tout ça c'était en vain, est-ce que ça lui t'a amené quelque chose? Et vers la fin du film, c'est elle tourne complètement le pouvoir dans le film, parce que c'est elle qui me fixe avec son regard en me disant, ok, maintenant moi je suis trop vieille. C'est à toi ou à ta génération de prendre la parole. Et voilà, c'est le moment où j'avoue très honnêtement que je porte pas cette capacité en moi. Mais il y a énormément de jeunes qui m'ont dit qu'en regardant cette scène, aussi parce qu'elle est filmée d'une manière où elle s'adresse vraiment presque direct aux caméras, qu'ils avaient l'impression qu'ils s'adressaient à eux et que ça les mettait vraiment mal à l'aise. Et ça met mal à l'aise, en fait, de que quelqu'un te fait face à cette question. Bon, je te passe le relais, tu le prends ou pas?
Oui, mais justement, elle dit ou pas. Et c'est ça qui est assez ouvert quand même. C'est qu'elle dit tu le prends. Et quand vous dites mais moi, maman, je peux pas, en fait. Moi, parler devant des milliers de gens, je sais pas faire. Elle dit ce sera peut-être pas toi. Et je trouve que c'est quand même une ouverture et une possible, enfin, et aussi un possible et l'idée de laisser les gens choisir qui est quand même très fort. Elle vous dit pas, ben maintenant t'as plus qu'une seule chose à faire, c'est sortir dans la rue.
Ouais, elle n'est pas dans un jugement. Elle n'est pas dans un jugement et je me demande parfois si c'est aussi parce que, voilà, on voit, il y a plusieurs scènes dans le film où on le voit entouré par ses amis, ils sont en train de jouer aux cartes ou débattre autour de la table. Et c'est aussi des profs de l'université. Mais qui n'ont pas forcément pris la parole, mais ils ont resté amis très proches. Du coup, déjà là, elle n'est pas dans un jugement qu'elle valorise que ses combattants dans la lutte et les autres qui ont resté chez eux, elle passe un jugement sur leur passivité, pas du tout. Elle juste dit, chacun de nous a une capacité ou pas en soi, soit agit, soit agit pas, mais elle passe pas vraiment, elle valorise pas ça d'une manière critique, disons.
En revanche, ce qu'elle valorise, c'est la question de la responsabilité. Et donc ça, par contre, que chacun la traduise en son âme intérieure, à savoir quelle est la responsabilité d'une existence et d'une existence politique. C'est une femme qui a une parole qui compte et qui donc est appelée. Alors vous vous servez cinématographiquement, Milata Raïlitch, de ce répondeur, du téléphone qui sonne. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ça? Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur cette question? Et vous avez un désaccord un jour sur est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur ce qui a eu lieu le 5 octobre 2000. Elle dit non. Elle renvoie gentiment et poliment la journaliste ou le journaliste. Et puis elle discute avec vous, et vous vous dites oui, il y a encore des choses à dire, et vous regardez les images.
On s'était toujours dit qu'avec 500 000 de gens dans la rue, on en finirait. Et c'est là que j'ai percuté, on était 500 000. Quelqu'un hurle qu'on a pénétré le Parlement. Les cloches de Saint-Marc commencent à sonner. Tout à coup, le silence total. On n'entend que des cloches. On commence à se rendre compte que la révolution est en train de gagner. Je n'arrive pas à y croire. Et ensuite, au-dessus des têtes de la foule, un jeune homme porte un fauteuil du Parlement. Tout le monde applaudit. La démocratie commence-t-elle toujours avec des gens applaudissant le vol ?
C'est un nouvel extrait de votre film L'envers d'une histoire, et après avoir dit qu'il n'y avait rien à dire sur le 5 octobre 2000, parce que vous lui demandez, elle s'exprime en regardant les images. Pourquoi, d'après vous, elle voulait se taire?
Parce que nous, comme j'ai dit, on a eu cette révolution en 2000 qu'on peut considérer aujourd'hui comme un échec total, vu que 15 ans après, les nationalistes ont repris le pouvoir, et surtout l'idée de la démocratie en Serbie s'est discréditée en elle-même. À cause de la corruption, des problèmes que, disons, cette groupe démocratique a eu au pouvoir. En fait, ils savaient pas trop comment gérer le pays. Il nous manquait une idée claire de comment recommencer le début. Et du coup, elle pensait que 15 ans après, de ressortir de nouveau, comment ce jour-là, enfin, la Serbie, après, elle trouvait que ça nous avance pas dans une réflexion politique, parce qu'on est tout le temps en train de revenir sur un moment historique voilà, qu'on considère un peu comme la culmination de notre lutte, mais en fait, il fallait pas trop insister sur ça, vu ce qui se passait après.
Mais alors, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Haroun Farouki, revoir les archives, c'est se donner la possibilité de les relire. Ce qui apparaît dans ce dialogue de re-regarder, c'est par exemple votre mère qui à la fois dit « j'ai attendu ce jour depuis tellement longtemps et il arrive » et en même temps qui dit quasiment dans les jours qui suivent « calmons l'hystérie ». Que faire du jour zéro? Est-ce que la liberté chantera de manière aussi belle qu'elle ne fut chantée quand le peuple était opprimé? C'est-à-dire qu'il y a une lucidité à l'égard de la révolution qui s'exprime de manière très forte à revoir ces archives.
Mais je pense que c'est lié au fait que elle n'est pas, enfin, ma mère est une ingénieure, elle n'est pas ni un homme politique. Et du coup, j'ai l'impression que son regard sur la vie n'est pas forcément encadré par les concepts. C'est vraiment là, on passe vraiment de ce qui est vécu. Il y a un film yougoslave des années 60 où il y a une scène dialogue qui m'a toujours vraiment, vraiment marquée. Je pense qu'elle influence beaucoup mon travail. Du coup, c'est un homme qui est un prisonnier politique. Il est face à un apparatchik de la partie communiste qui l'a enfermé. Évidemment, c'est des amis de l'époque de la guerre. Maintenant, ils sont de deux côtés opposés d'un système communiste qui est devenu trop autoritaire. Et à un moment, il y a cet homme qui dit à ce communiste convaincu apparatchik, pour toi, il n'existe que l'amour ou la haine, la vérité ou la mensonge. Et en fait, ce qui t'échappe est que la vie est toujours entre ces choses et jamais ça. Et ce que je voulais peut-être avec un film qui s'appelle Envers d'une histoire, c'est aussi de dire ce que nous on vit, c'est vraiment entre ce spectre des absolus, des concepts absolus. Et pour moi, tout le travail que j'essayais de faire dans ce film, avec un récit de ma mère qui est si intime, avec un regard qui est si personnel sur l'histoire, et avec cet usage d'archives, était vraiment de dire, mais nous, on a vécu nos vies à l'intérieur de toute cette idée communisme, nationalisme, démocratie même, de ces concepts assez monolithiques, en fait. La vie passe entre tout ça. Et de dire à travers l'histoire de ma mère que nos identités, ce qui nous forme, la façon dans laquelle nous on est traversé par ces événements historiques est beaucoup plus complexe qu'une réduction si simpliste. Voilà, c'était un jour de la révolution, tout d'un coup un régime s'effondrait, la démocratie a pris sa place. Que même que vu de l'intérieur, même ce jour-là, il y avait des doutes, il y avait des moments d'hésitation, il y avait des choses qu'on a vues.
Bien sûr.
Donc, et je pense que ça, c'était très, pour moi, au moins, c'était très important de mettre ça en scène. Et surtout, c'est là où, voilà, la phrase de Farouki sur révisionner les images, pour moi, devient très important. Parce que ce que je voulais faire est dire, voilà, il y a des images officielles. Par exemple, dans ce moment-là, 5 octobre, il y a aussi d'autres scènes dans le film où c'est des choses qui sont passées à la télévision à l'époque. Et ça, c'est vraiment un document officiel, d'un regard officiel sur l'histoire. Mais au moment où je commence à utiliser ces images, à l'intérieur d'un épisode où ma mère les raconte, j'arrive, j'espère, moi c'est ce que j'essaie de faire, de le déplacer de cet champ histoire officielle, un champ mémoire, souvenir personnel. Et en fait, j'ai l'impression que le travail que j'essaie de faire, et c'est vraiment de déplacer l'image d'une lecture qui est, à mon avis, trop manichéen ou trop monumentale de toute façon, trop réductrice, c'est sûr, à une échelle où ça devient des souvenirs imprécis, sentis, débattus, et de vraiment donner une autre place aux images d'archives en les situant à une échelle intime.
Et donc en les rendant ou en rendant tout cela plus complexe que souvent ça n'est lu ou que souvent c'est utilisé par exemple pour des propagandes politiques, il y a une scène qui la représente, ce débat comme vous dites, ou cette espèce de jeu là où ça grince. C'est un moment donné où, bon, dans le film il va se poser, on va pas révéler, mais la question d'un héritage. D'un héritage réel, quoi, concret, de l'immobilier, de bref, beaucoup d'argent. Et vous vous adressez à votre mère en disant, alors toi tu es quoi? Est-ce que tu es la bourgeoisie déchue qui a accepté sa défaite, ce qu'elle dit d'abord être, et en même temps, elle veut quand même transmettre, elle est en train de faire les papiers pour l'héritage, et vous lui dites, bah, t'as vraiment accepté ta défaite, dans ces cas-là, renonce à l'héritage. Et elle se retourne vers vous, et elle dit, et vous, vous y renoncez ou pas? Et là, d'un seul coup, les grandes idées politiques, elles s'appliquent autour de la table avec un papier et un crayon, et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où ça devient plus intéressant, plus complexe, moi, à mon sens.
Et c'est ça que j'ai cherché, de toujours situer l'histoire là, dans dire... J'ai l'impression... Moi, j'ai vécu dans une période où j'ai vu une hystérie incroyable monter. D'abord dans les médias, mais après aussi autour de moi. Donc, quand les idées politiques prennent tellement de place dans votre quotidien, dans vos conversations quotidiennes avec vos amis, avec vos proches, c'est là où vous commencez à être réduit sur votre position politique. Donc tout d'un coup, je suis plus Mila qui a un regard complexe sur un ou deux choses, c'est plutôt est-ce que t'es de ce côté-là ou t'es de ce côté-là. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce film, c'est de réclamer en fait la liberté d'être complexe, d'avoir un regard complexe et surtout d'avoir des identités complexes. Parce que je pense que le nationalisme, surtout le populisme qu'on est en train de voir croître partout en Europe, naît à ce moment précis où on commence à réduire nos identités et nos positions politiques aux choses qui sont, voilà... Enfin, on commence à nous mettre dans des boîtes. Donc, toi, t'es serbe, toi, t'es croate, toi, t'es, je sais pas, de gauche, de droite. Et en faisant ça, on réduit l'espace de dialogue.
Et en passer par l'émotion, c'est-à-dire à la fois dans la manière dont vous regardez votre mère, qui n'est pas une manière monolithique, qui n'est pas seulement tournée vers l'admiration et l'écoute, qui est aussi parfois une manière de la remettre en question, ou alors l'émotion d'un soir, une femme qui meurt et qui, dont vous ne savez pas si vous devez vous réjouir de sa mort, et votre mère, elle ouvre la porte à la complexité en disant oui, bah voilà, parfois c'est comme ça, quoi, la vie c'est compliqué, parfois on pourrait presque se réjouir de la mort de quelqu'un, mais non, et d'un seul coup, tout est plus peut-être vivant.
Oui, je l'espère bien, mais c'est aussi à dire que... En fait, moi, j'ai une horreur des absolus, parce que j'ai grandi dans des absolus. Donc déjà, aujourd'hui, quand j'entends des historiens, vu le fait que j'ai dit on est un pays sans récit, donc il y a un travail permanent des historiens d'écrire l'histoire... Chaque fois que j'entends, voilà le livre qui explique la vérité finale, qui donne la vérité finale sur ce qu'était le communisme, ou ce qui était Tito, ou qu'est-ce qui se passait dans les années 90, moi j'ai une réaction presque instinctive d'horreur. J'ai vraiment un peur des vérités absolues, des vérités définitives, des récits finaux, parce qu'en fait ils sont hyper réduisants, ils sont hyper réducteurs à chaque fois. Et du coup, c'était vraiment d'essayer de dire, ok, vu que l'histoire, ou les historiens, nous ont échoué parce qu'ils continuent dans cette logique de
encadrer le chapitre.
Voilà. Est-ce que nous, en tant que documentaristes, en parlant un autre langage, un langage de cinéma, de l'intime, d'émotion, on peut déplacer ce travail sur un champ de mémoire? Donc, je suis plus dans l'écriture d'histoire, maintenant je suis dans la mémoire. Et la mémoire nous permet cette complexité où se passe la vie, en fait.
Da li ti veruješ da ti kad izađeš pred tu masu?
Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait sur scène quand tu ne vois pas le bout de la foule. C'est terrifiant. Quand tu es devant les gens, tes jambes tremblent tellement que tu tiens à peine debout. Et c'est pareil à chaque fois. Ça fait 10 longues années que je rêve qu'il soit parti. Je rêve que ce pays redevienne un pays de liberté et de démocratie. Je rêve que la haine et la corruption n'existent plus. Je rêve que les personnes âgées ne fassent plus les poubelles pour manger. Je rêve que les jeunes aillent à l'école normalement et ne quittent pas ce pays à la fin de leurs études. Je rêve que les aînés soient soignés correctement. Et enfin, je rêve qu'au lieu de nous réunir ici tous les soirs, nous passions nos soirées avec nos familles et nos amis.
C'est un dernier extrait de votre film Mila Touraylitch qui s'appelle L'envers d'une histoire, et on entend donc un discours de votre mère qui a lieu en 1996 qui dit que bon, elle n'a aucun problème avec le fait de voir l'échec de son propre rêve, mais ce qui lui pose problème, c'est de ne pas avoir de rêve du tout. Et on entend dans la manière dont vous concluez votre film, vous le disiez tout à l'heure, qu'elle vous adresse la question, quels sont les tiens? Quel est ton rêve politique, mais aussi quel est ton rêve intime? Il y a des moments de très grande tendresse, il y a des moments de très grande compréhension qui laisse augurer que, certes, le combat politique est d'une importance vraiment très forte, mais qu'il y a la vie, quoi. Je sais pas comment le dire de manière moins bête que ça, mais c'est comme si elle vous transmettait aussi quelque chose de très doux, en disant pense à ton bonheur, quoi. Je voudrais pas dire opposer pense à ton bonheur et oublie la lutte politique, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses qui se passent là, j'ai l'impression. Donc déjà, c'est pas par hasard qu'elle a fait un discours sur un rêve. Ma mère avait 22 ans quand Martin Luther King était assassiné. C'est 68, elle était engagée, étudiante et tout ça. Et je pense qu'elle est vraiment grandie dans un monde rêvé. En fait, qui se rêvait, qui était capable de se rêver. Et je pense qu'elle sent une tristesse profonde, pas seulement pour moi, mais vraiment aussi pour ma génération, qu'on n'a pas ça. Bon, c'est plus un monde d'idéologie, ça veut dire que c'est aussi plus un monde d'utopie, ça veut dire que c'est aussi non plus un monde des avenirs rêvés. Donc, en perdant tout ça, on a en même temps perdu cette idée de rêver un monde et puis de s'y mettre, de le construire. Et je pense que pour elle, c'est une tristesse qui va vraiment au-delà d'un engagement politique. C'est juste, en dehors de toi, tes ambitions personnelles, et comme vous avez dit, tes rêves d'une histoire familiale, par exemple. Quel est le monde dont tu rêves? Quel est le monde que tu veux habiter? Et donc, c'est là, je pense qu'il y a une vraie tendresse d'une mère envers une fille pour l'état de monde dans lequel elle va nous laisser. Donc il y a ça. Mais en même temps, je pense que c'est quelqu'un, et ça se voit dans le film, dans la manière dont elle raconte l'histoire de sa famille, parce qu'à la fois, elle est vraiment, dans ce film, la protagoniste d'une chronique familiale, que c'est quelqu'un qui est tellement enraciné. D'où elle vient, de ce qui lui était transmis par ses parents, que je pense qu'elle se dit, voilà, ma fille qui se fait plutôt l'idée de partir, elle va sacrifier tout ça, elle va perdre ses racines. Et du coup, je pense qu'il y a aussi cette idée de, peut-être pour toi, le bonheur est ailleurs, mais tu vas perdre une chose que tu peux jamais retrouver si tu quittes ton pays, et c'est ce sentiment d'être enraciné profondément. Et je pense que ça aussi, ça interpelle une génération qui est très mobile.
Qui se pose la question de partir ou rester.
Ouais.
Merci beaucoup, Milaj Turajlić. Votre film s'appelle « L'envers d'une histoire, un siècle yougoslave ». C'est en salle depuis hier. Merci beaucoup. Au son ce soir, c'était Bernard Lagnel, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain sur France Culture à 21h. Quand vous voulez, sur franceculture.fr pour podcaster ou réécouter cette émission, trouver les archives, les extraits, les musiques diffusées, et aussi pour vous abonner au podcast de Par les temps qui courent et nous écrire. Un grand merci à Jeanne Aléos, Luc Vauvillier, Marianne Chassor, Romain de Bec-de-Lièvre qui m'aident à penser et préparer cette émission. Très belle soirée sur France Culture. Washing my underwear, thinking all along you were of good cheer, and I am going to try. Begins a star. There's a spark in my heart, but you just stay away from my memory. I try to get it right, lay down a song, but there's something wrong with my song. And I am going to try.
crazy as it seems. In the hall of broken dreams, till there's nothing left but an empty eggshell. Movie, like you really.